Tu as dernièrement perdu ton travail à cause de la pandémie? Tu désires changer de carrière pour un emploi plus motivant avec un excellent taux de placement? Aviron Québec t'offre des formations qui, en l'espace d'un an, peuvent changer ta vie. Nos DEP en charpenterie, menuiserie, électricité, plomberie, chauffage, soudage, montage font partie des diplômes les plus en demande en ce moment sur le marché du travail. Ne manque pas le début des cours le 14 mai. Tous les détails sur avironquebec.com.
Aviron bâti chez nous ton avenir.
CJMD 96.9, la radio de Lévis.
C'est une date spéciale aujourd'hui pour la culture au Québec. Pour en parler, on reçoit Claude Trudel. C'est le 60e anniversaire de la loi qui a créé le ministère de la Culture du Québec.
Oui, ça l'a créé l'Office de la langue française du même coup, d'ailleurs.
Ça a créé, oui, OK. C'est relié tout ça.
C'est rattaché au ministère des Affaires de la Culture.
Monsieur Trudel est ex-politicien, ancien haut fonctionnaire du ministère des Affaires culturelles et surtout auteur. Claude Trudel, merci d'être avec nous aujourd'hui.
Merci de m'avoir invité.
Sur la page couverture de ce bel ouvrage-là qui se nomme « Une histoire du ministère de la Culture 1961-2021 », j'avais écrit 2001, mais on est 20 ans plus tard. Il y a une photo de Georges-Émile Lapalme qui a eu le premier poste de ministre des Affaires culturelles ou ministre de la Culture de l'Histoire du Québec. Est-ce qu'on peut vraiment dire que c'est lui qui l'a créé? Et parlons un peu du phénomène. Il avait été chef du Parti libéral avant de devenir ministre de la Culture.
Oui, il avait été d'abord député au niveau fédéral avant de prendre la chefferie du Parti libéral. Et comme chef libéral, évidemment, il s'était fait battre deux fois par M. Duplessis. Okay. Et ça ne l'avait pas empêché de préparer le programme politique du Parti libéral pour l'élection du mois de juin 1960.
Donc, quand le sage est rentré, c'était avec un programme conçu par M. Lapalme, en grande partie.
Oui, absolument. Oui. Et donc, le premier article, c'était assez extraordinaire, le premier article disait il faut créer le ministère des Affaires culturelles. Imaginez, en 2021, il y a un parti politique qui ose proposer une chose semblable. Je pense qu'il perdrait son élection. Alors, les libéraux l'ont gagné, entre autres, avec cette promesse électorale en 1960, de créer un ministère des Affaires culturelles pour les Québécois.
Ça démarrait la Révolution tranquille de belle façon. Puis, bon, le premier titulaire était celui qui avait eu la volonté de tout ça. Parlons des premiers balbutiements, ça a dû être un peu chaotique. Puis, la vision de Lapalme était large d'emblée, là. C'était pas juste de, je sais pas, ramasser la gestion des radios puis des subventions aux artistes qui étaient très peu répandues. Ça allait jusqu'à, comme on l'a dit, la langue française, mais encore plus loin.
Oui, c'est, il y avait une vision globale pour... Pour lui, l'avenir des Québécois passait par la langue française, passait par le développement de la culture. Donc, pour lui, un ministère, c'était un instrument de développement pour les Québécois, au même titre que l'éducation. C'est une des raisons pour lesquelles il a constaté au bout de 3 ans qu'il y avait un petit ministère avec un petit budget et qui n'arrivait pas à faire percer la culture comme étant quelque chose d'important. La preuve, c'est qu'à un moment donné, c'est passé à l'histoire, on parlait des bebelles à la panne en parlant de son ministère. Alors, il a démissionné malheureusement rapidement, mais ce qui n'a pas empêché ses successeurs de développer petit à petit ce ministère-là.
Oui, le palier était monté, on ne pouvait plus redescendre. Mais il y a eu des hésitations.
Oui, une fois que la balle roulait, comme on dit, là, c'était difficile de l'arrêter. Mais ceci étant dit, c'est demeuré pendant 60 ans un ministère important, mais un petit ministère dans le gouvernement avec un budget qui est important, mais qui est petit si on le compare à celui des autres ministères.
Oui, mettons, on compare ça au transport, c'est moins d'un dixième. Oui. Mais il y a eu de l'hésitation. Je continue à insister sur les débuts, c'est fascinant. Oui. On a pensé à un peu à l'anglo-saxon, créer quelque chose qui était plus du genre d'un conseil des arts. On regardait la France qui avait un vrai ministère. À quel point c'est vraiment de l'influence étrangère puis un choix entre une façon de faire ou une autre, ou plutôt un hybride là, qu'on a construit finalement?
Dans l'esprit de M. Lapalme, c'était très, très clair. Il rejetait le laisser-aller à l'américaine. Non? Ça ne l'intéressait pas. Par contre, il trouvait un homme politique qu'à ce moment-là, l'idée d'un conseil des arts éloigné du politique, c'était trop loin. Ça prenait, parce qu'il était ambitieux, hein, rappelez-vous, là, que c'était une pensée globale là, qui était en action. Il se disait, ça va prendre des décisions politiques et pour ça, ça prend un ministère. Et il était très influencé par ce qui venait de se passer en France. Le ministère français des Affaires culturelles, de la culture, il venait d'être créé par André Malraux, pour lequel M. Lapalme avait une admiration profonde. Il est devenu, d'ailleurs, ami avec Malraux. Alors, pour lui, ça s'est imposé que la seule formule pour le Québec, c'était celui d'un ministère.
La gestion du patrimoine bâti, personnellement, j'ai beaucoup de critiques régulièrement là-dessus ici. Puis d'un côté, de pas assez de protection, puis des fois de l'autre aussi, en même temps, très complexe. Et je me demande ce qui advenait de ça. Il y avait moins de conscientisation là-dessus avant les années 60, évidemment, mais comment on gérait ça? Qui avait ça sous son égide, exemple, d'autoriser une destruction de monuments? On a le fort numéro 3 ici, directement dans le stationnement, tu sais. Ça, dans les années 40, il avait fait une cimenterie avec ça. Je me demandais qui permettait ou interdisait ce genre de choses-là avant que ce soit le ministère de la Culture de Lapalme qui s'en empare.
Bien, il y avait eu des interventions gouvernementales, notamment qui remontaient là, aux années 20 même, excusez-moi, par la suite aux années 30, qui étaient surtout basées sur « on sauve les vases, on sauve des trucs comme ça. »
Okay.
Mais sur les monuments même, les bâtiments, c'est M. Lapalme qui a redéfini la loi. Oui, c'est le premier qui est intervenu dès 1961-62. Par la suite, il y a eu... C'est peut-être le domaine, avec quelques autres, mais le domaine principal d'intervention, assez curieusement, de beaucoup de ministres des Affaires culturelles au cours des 60 ans du ministère.
Parlons...
Pas toujours de la bonne façon, soit dit en passant.
C'est sûr.
Pas nécessairement... au bon moment, mais je pourrais vous énumérer au moins 4 ministres qui sont intervenus avec l'adaptation des lois, mais c'est un domaine où on est intervenu fréquemment.
Ben, on va en nommer des ministres successifs du ministère de la Culture. On peut personnaliser un peu la chose. Les personnalités marquantes là, à la tête du ministère de la Culture, ça a été à peu près la norme. Jean-Paul Lallier, pour en choisir un peu... pas aléatoirement, mais tu sais, quelqu'un qui est connu de notre public ici, ex-maire de Québec, il s'y était démarqué sous le gouvernement Bourassa. Peut-être quelques mots sur sa façon de procéder à la tête du ministère de la Culture.
Oui, je dois dire là, que je parle d'un ami, j'ai travaillé beaucoup avec lui, j'étais sous-ministre à l'époque,
okay.
On se connaissait avant, et... M. Lallier a rédigé lui-même, c'est assez exceptionnel. Absolument, on fait rédiger les grands documents par les fonctionnaires.
Ouais.
On leur donne une directive politique. Jean-Paul, lui, il a rédigé lui-même. Et nous, le groupe de fonctionnaires autour de lui et son cabinet politique, okay. On révisait ça, on lui donnait des... Alors, la politique, le livre vert de Jean-Paul, qui a influencé beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde à la suite, parce qu'il n'a pas eu le temps de le réaliser, son gouvernement s'est fait battre.
Ouais.
En 1976, mais Jean-Paul Lallier a eu beaucoup, beaucoup d'influence. Ses idées sont restées à la mode, ont influencé. Et Jean-Paul Lallier était quelqu'un qui est allé dans le détail, qui a fouillé partout dans le ministère, qui a consulté le milieu et qui est arrivé avec plein d'idées. Son livre vert, c'est un des documents, à mon avis, très importants dans l'histoire du ministère.
C'est probablement toujours disponible aujourd'hui, puis j'ai pris un moment, j'ai quand même feuilleté, j'ai pas réussi à le lire au complet, le livre Une histoire du ministère de la Culture 1961-2021, mais il y a une zone où les archives nationales sont mentionnées, c'est sous l'égide du ministère de la Culture. Parlons-en un peu de cette entité-là qu'on connaît pas nécessairement et qui est peut-être pas si...
Excusez-moi, je suis pas sûr que vous entendez bien, là.
Les archives du Québec... M'entendez-vous mieux?
Oui, puis il y a un son qui rebondit.
Ah bon?
C'est votre côté du mien, là, mais vous me parlez des archives du Québec, oui.
Oui, exact. L'accessibilité n'est pas encore nécessairement... On vante pas ces capacités-là, cette facilité-là. Parlez-nous un peu des archives nationales du Québec, avec votre vision, vous qui avez bien approfondi la connaissance du ministère de la Culture. Est-ce qu'on en fait assez de ce côté-là? Ça pourrait pas être une des zones où il nécessiterait des investissements substantiels?
Ben, sans doute, je ne me suis pas prononcé. C'est assez... Heureusement, je vous le dis, j'ai été de ceux qui, comme sous-ministre, puis ça s'est ça s'est passé sous plusieurs années, donc deux ou trois ministres avant qu'on aboutisse à faire la loi des archives. Mmh. Par la suite, on a joint la Bibliothèque nationale avec les Archives nationales.
Ouais.
Et ce qui fait que c'est un organisme fondamental. La richesse des archives québécoises est unique au monde.
Ah bon?
Ce qu'on possède comme archives, là, je sais pas si vous l'avez déjà réalisé, je le décris brièvement dans mon livre. Il y a peu de peuples au monde qui possèdent autant d'archives sur lui-même. C'est-à-dire que Québécois possèdent comme peuple, on possède tous nos extraits de baptême, tous nos extraits de mariage, tous nos extraits de décès. Et c'est d'une richesse inouïe. Et ça, il faut conserver ça. Ça a été fait longtemps avant le gouvernement de M. Lesage ou de M. Lapalme. Mais à ce moment-là, on a commencé à prendre ça au sérieux et on a commencé à avoir des mesures de protection. Maintenant, est-ce que ces archives-là sont facilement accessibles au grand public? Ça, c'est une bonne question. Et honnêtement, je pourrais pas y répondre parce que je vais assez éloigner ces choses-là maintenant.
Ben, personnellement, moi, j'ai peut-être une réponse. Il devrait y avoir une publicisation puis vanter les possibles utilisations qu'il y a à faire avec ça. Puis aussi, là, il y a beaucoup d'églises qu'on voit être changées de vocation. C'est en retrait. Puis vous avez parlé des avis de baptême puis tout ça, la généalogie, ça a passé beaucoup par là. Je suis certain qu'il y a encore énormément de choses à récupérer. Mais jamais qu'on a un titre de journal en ce sens-là. Puis d'ailleurs, on a l'impression que les journalistes ont beaucoup de difficultés à aller fouiller là-dedans. Alors, personnellement, je pense que ça pourrait être intelligent qu'on revoie la chose. Avez-vous des priorités pour Nathalie Roy, qui est la ministre actuelle, qui devrait être différente de ça, votre vision de ce qui devrait être fait actuellement au ministère de la Culture après avoir analysé chacun des ministres?
Je pense que Mme Roy a une belle occasion, puis elle a commencé arrêté par la pandémie, évidemment, c'est de mettre à jour une loi extrêmement importante là, qui était passée sur Mme Bacon, qui est le statut de l'artiste. Ça a été revu un petit peu par Mme Beaudoin, puis par la suite par Mme Beauchemin, Beauchamp, mais c'est une loi qui date de 40 ans, qui doit être mise à jour. Et Mme Roy a commencé, c'est-à-dire elle reçoit des mémoires, tout ça. Je pense que là, elle a l'occasion de mettre cette loi-là à jour. Et surtout, après la pandémie, où à travers laquelle ils sont pas les seuls, mais ils sont parmi ceux qui ont le plus souffert. Là, les milieux des arts et des artistes ont beaucoup souffert. Et leur statut professionnel, il y a des grands pans qui doivent être revus. Alors, je pense que Mme Roy a là l'occasion. Et c'est pas des montants énormes qui sont en jeu. Il y a des montants qui sont en jeu. Il y a du financement là-dedans. Je veux pas l'évaluer. Mais elle a l'excellente occasion de mettre cette loi-là à jour. Bon. Elle a présenté un projet de loi pour amender la loi sur le patrimoine québécois, la loi de 2011. Mm-hmm. Bon, ça fait son petit bonhomme de chemin, je pense, à l'Assemblée nationale.
Ouais. Les médias.
Les médias, mais ça, c'est une autre chose. Moi, je n'ai pas abordé cette question-là parce que au moment où j'ai entrepris mon étude, dans l'histoire du ministère, ça pâtit toujours au ministère des Affaires culturelles pour une raison bien au ministère de la Culture maintenant. Pour une raison assez simple, c'est qu'il y avait un ministère des communications avant 1994.
Ben oui.
Et j'ai pas voulu m'embarquer là-dedans, pas plus que dans l'histoire de pas parce que je trouve que la langue française n'est pas importante. Au contraire, je trouve que c'est tellement important que ça valait à elle seule un livre.
Sujet en soi, oui, on comprend.
Oui, voilà. Donc, j'ai pas consacré du tout d'espace à la langue française. Alors, c'est la même façon, il faut limiter l'histoire de la culture à ce que c'était au début. Alors moi, j'en ai suivi l'évolution. Et là, je me dis, bon, ce que le gouvernement Legault a fait l'an dernier, avant la pandémie, son dernier budget, c'était quand même un effort budgétaire du côté de la culture qu'il fallait qu'on relève, puis qu'on remarque, puis je pense qu'on félicite ce que j'ai relevé dans mon livre. Maintenant, on va voir, il y a un budget demain, ce qu'il va faire. Bon, une fois que tu as des sous, il y a une façon de les dépenser, c'est celui-là, on verra ce que Mme Roy va faire avec ça. Le milieu était assez critique devant son absence pendant la pandémie. Mm-hmm. J'ai relevé sans le juger. Je veux dire, c'est plus facile d'écrire comme je l'ai écrit quand on... Je m'excuse, c'est le vent de ça.
C'est pas grave.
Ce que j'ai écrit, quand on a un petit peu de recul, quand on en a moins, c'est un peu plus... Puis je veux pas, disons, m'embarquer dans une critique.
Ben, vous avez été quand même impartial dans l'écriture, ça se sent. Une histoire du ministère de la Culture 1961-2021, je recommande l'ouvrage. Mais avant qu'on se laisse, là, ça vient de me revenir, la fusion du ministère des Communications avec le ministère de la Culture, c'est qui est responsable de ça? Quel gouvernement a fait ça?
Et c'était sur M. Bourassa, parce qu'il y a eu une bagarre entre Ottawa et Québec sur les communications, puis après un jugement de la Cour suprême pour décider que les communications, de façon générale, là, sur le plan constitutionnel, une grande partie relevait du gouvernement fédéral. Alors, ce que voyant, nous, Mme Fouleur venait de refaire le ministère de la Culture, puis englober les communications, c'était beaucoup plus simple parce que c'était Radio-Québec qui appartenait à Télé-Québec à ce moment-là. Alors, c'est comme ça qu'ils ont réglé ça, ils ont absorbé les communications au ministère de la Culture.
Justement, j'avais peur que ça ait été après le scandale des commandites parlant du fédéral qui se mêlait
pas
nécessairement de ses affaires.
Pas mal d'années avant ça.
C'est bien.
Ça n'avait rien à voir non plus.
Monsieur Trudel, un grand, grand merci. Félicitations encore pour l'ouvrage. C'est un ouvrage qui va être utile pour très longtemps. Merci pour l'entrevue. Puis on invite les gens à aller se procurer l'ouvrage. À la prochaine. Merci.
Merci.
Claude Trudel, mesdames, messieurs.